L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir et écouter Maître Philippe Arbouche, qui est notre guide dans les dédales de la justice depuis déjà de nombreuses années sur les ondes de Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder des gens qui vous sont chers, Philippe. Ce sont les avocats. Et puis, on aura au moins trois grandes figures d'avocats, dont un que les Chartrains connaissent, sinon ce qu'il a fait, du moins son nom, c'est certain. Je ne vous en dis pas plus, on va démarrer avec Jacques Izorni. Pourquoi avoir fait cette émission sur les avocats, tiens?
Cette émission, bonjour Christophe, cette émission parce que, effectivement, au terme de cette saison où on a évoqué les différents procès dans le temps, des procès tous différents, tous emblématiques, il y a le fil rouge, c'est la justice, c'est-à-dire les juges qui vont juger, les procureurs qui poursuivent, et puis les accusés et les victimes qui sont dans le fonctionnement de la justice. Mais il y a aussi des personnes, des métiers qui sont aux côtés des juges, qui ne sont pas des juges, bon, voilà. Parmi eux, il y a les avocats. Il y a aussi les greffiers. On aurait pu parler des greffiers.
C'est moins spectaculaire et c'est moins...
Oui, on connaît moins les greffiers qui n'ont pas, par définition, un rôle médiatique, mais dont le métier est extrêmement important pour le fonctionnement de la justice. Bon, aujourd'hui, j'ai pris peut-être un peu du spectaculaire en voulant parler des avocats ou de certains d'entre eux, parce que j'allais pas vous parler de La Bruyère ou de Mirabeau ou de Gambetta ou de Léo Lagrange, j'en ai toute une liste.
Hein. C'est incroyable. Donc, hein, moi, le nom de gens célèbrissimes.
C'est incroyable.
Qui ont été avocats et on ne sait pas forcément qu'ils l'ont été d'ailleurs.
Non. Gaston Leroux. Leroux.
Rouletabille.
Bon, Mitterrand, on s'en souvient peut-être un peu. Mendès France, Sarkozy, Stoscan, Christine Lagarde. Marine Le Pen, pour parler de gens dont on parle en ce moment. Mais aussi Gandhi, Margaret Thatcher, Gerhard Schröder, Barack Obama. La liste est longue. Mais ce sont des avocats célèbres ou connus, dont on connaît les noms en tout cas. Et effectivement, donc, je voulais commencer par vous parler un petit peu de Izorni.
Jacques Izorni qui s'est rendu célèbre, on va dire, par le procès Pétain, bien sûr.
Oui. Alors, Izorni est né en 1911, il est mort en 1995. Effectivement, il est surtout connu pour avoir été le défenseur de Pétain. Pétain qui était poursuivi pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison. Hein. Alors, cette défense, on le lui a beaucoup reproché, comme on reproche souvent aux avocats de défendre des gens peu sympathiques ou des gens qui ont commis des actes épouvantables. Alors, sur la personnalité de Pétain, je ne m'étendrai pas. Simplement, quand on demandait à Izorni, mais de quel côté étiez-vous au moment de la guerre? Ah, il faut savoir que pendant la guerre, Izorni avait défendu des communistes.
Oui, hein. c'est pas un avocat idéologue, hein, finalement.
Non, pas du tout. Non. Alors, il l'est devenu un peu au fil du temps. Il est devenu. Il s'est radicalisé, on pourrait dire. Mais pour lui, c'était la défense avant tout. C'est-à-dire qu'on lui demande, par exemple, à la Libération, mais de quel côté étiez-vous au moment de la guerre? Et il répond, j'étais du côté des prisonniers. À la Libération, ils ont changé. Moi, je suis resté du côté des prisonniers. Alors ça fait partie des mots... aussi des bons mots que certains avocats, il n'y a pas que, mais enfin certains avocats...
Ils n'en sont jamais avares, oui, des mots qu'on retient, qu'on garde.
Ah ben ça, c'est le petit... Oui, c'est le côté... Vous bien vu, hein. Donc, il défend les marginaux, il défend les gens contre le pouvoir établi. Il a défendu Robert Brasillach, en disant que c'est un homme de lettres, inspiré, que ce serait une perte dommageable pour la France, Et il fait partie d'ailleurs de l'association des amis de Robert Brasillach.
Rappelons donc aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Brasillach. Brasillach était un grand écrivain qui a choisi donc le camp de la collaboration réellement.
Hein, ah oui, réellement. Oui,
active,
oui.
Hein, Brasillach, et qui a été finalement fusillé.
Oui, tout à fait. Exécuté, condamné à mort en février 1945. Voilà.
Le général de Gaulle avait refusé sa grâce.
Oui, collaborateur vraiment. Caractérisé, quoi. Mais en défendant Brasillach, il défendait un homme. Alors, en fait, il a été député, Isernie, et puis après, il perd son siège. Et là, il se lance dans la politique en rejoignant l'Union des Nationaux Indépendants. C'est cette époque où les indépendants sont très courtisés et créent, par exemple, le Centre National des Indépendants des Paysans. Ces petites structures, enfin ces revendications, on va dire populaires, populistes.
C'est populiste. C'est ni de droite ni de gauche. C'est quoi?
C'est quand même ça frise quand même, ça frôle quand même la droite extrême. Hein.
D'accord.
C'est toujours par exemple, c'est le seul député de droite à voter contre l'investiture de Gaulle en 58. D'accord. Voilà. Estimant qu'il s'agissait d'un coup d'État. Donc c'est cette ambiguïté, ce personnage qui est intéressant. Hein. Il a défendu le maréchal Juin, par exemple. Il a soutenu la cause de l'Algérie française. Donc on va dire que c'est quelqu'un de conviction.
Ouais.
C'est quelqu'un de conviction. Mais effectivement, c'est la défense de Philippe Pétain qui l'a fait connaître le mieux, le plus, parce que il dit que en fait. Il n'a pas été condamné pour intelligence avec l'ennemi. Il n'a pas fait l'apologie du crime. Donc à partir de là, il saisit après coup la Cour européenne des droits de l'homme pour faire revoir le procès Pétain encore, et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment quelqu'un qui a la vocation de la fougue de l'avocat pour défendre jusqu'au bout, y compris ce que certains pourraient considérer comme un peu indéfendable.
Oui.
Au bout d'un certain temps, quand la justice a tranché, s'obstiner devient quelque chose qui n'est pas dans le rôle de l'avocat.
Non. Est-ce que le maréchal Pétain a été condamné à mort, c'est ça? Il a été gracié par de Gaulle, mais est-ce qu'il a été condamné
Non, à ma connaissance, il a été condamné à perpétuité.
À perpétuité, donc perpétuité. C'était finalement...
Oui.
Bon...
Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve, par exemple, des gens comme Philippe Bilger, qui est, qui est procureur et qui, à l'époque, représentait le ministère public. Donc, on a reproché à Isernie d'avoir fait l'apologie des crimes ou des délits de collaboration, mais c'est tout un contexte. Oui. Défendre une personnalité comme ça, c'est se mettre sous les projecteurs.
Oui.
C'est ce que met Isernie, je pense.
Parce que de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque prévenu a le droit à un avocat. C'est à ça qu'on reconnaît une démocratie.
Hein. Ah oui, c'est... quand il n'y a plus d'avocats, les premiers qui tombent sous les balles, généralement, des gouvernements totalitaires, ce sont les journalistes et les avocats.
Les
journalistes sont souvent en premier. Il suffit de regarder la presse aujourd'hui encore, de voir les morts suspects, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit dans des pays ou d'autres encore. Hein. Mais les deuxièmes, c'est les avocats. Parce qu'ils prennent la défense de personnes qui sont suspectées d'être terroristes, d'être des gens qui fomentent des mauvais coups, et on les met dans le même sac. Dans notre système... On ne met pas les gens dans le même sac. On n'aime pas forcément Isernie ou celui dont on va parler maintenant, Jacques Vergès. On ne l'aime pas, mais on ne le tue pas pour autant. Et puis on comprend quand même dans nos démocraties qu'un avocat est nécessaire.
Et quand Isernie a défendu ces résistants communistes pendant l'occupation, est-ce qu'il a pu faire son travail? Est-ce que réellement, il a pu faire œuvre d'avocat les conditions historiques qu'on connaît, quoi.
Vous savez, la cause était déjà entendue. Hein.
Oui.
C'était devant la section spéciale de la Cour d'appel de Paris et devant le tribunal d'État. Autrement dit, c'était des simulacres de jugement. C'est d'ailleurs... ça pourrait donner lieu à une discussion ou une réflexion. C'est que combien de juges sont restés en poste Avant, pendant et après.
Bon nombre, je crois.
Bon nombre. Oui. Et les mêmes qui condamnaient, après, enfin, qui acquittaient ou condamnaient ou réciproquement. Donc là, on prend l'histoire de l'avocat, ils en nient, mais sur les juges, il y aura un petit focus à faire aussi, quoi. Non, c'est intéressant.
Parlons d'un autre Jacques, et celui-là est encore. Si j'ose dire, frais dans nos mémoires, c'est Jacques Vergès qui nous a coûté il y a quelques années, finalement.
Il est mort en 2013.
2013.
Donc, alors, Vergès, personnage très, très, très controversé, qui a surjoué très, très largement sa personnalité, notamment avec sa grande disparition pendant presque une dizaine d'années.
C'était à quelle époque, ça? C'était,
alors, il a disparu, je vais reprendre mes notes... il a disparu...
Ça va être aux alentours, oui, des années 50-60, quelque chose comme ça, sans doute.
Il milite pour le Front de Libération. Oui, je retrouverai. Oui. De 70 à 78.
Non, de 70 à 78.
Voilà. Voilà, autant pour moi. De 70 à 78. Alors, on lui demandait s'il était au Liban, à Moscou, ou s'il travaillait pour les Khmers Rouges. Il dit « J'étais très à l'est de la France ». Bon. Avec des amis qui sont encore vivants et dont certains ont des responsabilités importantes. Est vrai ou pas vrai, on n'en sait rien. Hein,
bon. On ne connaît pas des... non, les noms, on les a pas.
Non. Il y a un de ses biographes qui dit qu'il était au Katanga. Bon. Il y a même une thèse selon laquelle, comme Debray, le ministre de l'époque, voulait sa peau, et le Mossad, le service secret israélien, voulait le tuer, puisqu'il avait défendu des Palestiniens, il s'était mis au vert. Et donc au service des services secrets chinois. Ça, on n'en sait rien. Enfin, moi, je n'en sais rien, en tout cas. Et ça entretient le mythe Vergès, cet homme un peu dans l'ombre, capable de réapparaître un peu comme ça. Il fait peur un peu, hein, Vergès. Hein.
Oui, puis alors, il a défendu Klaus Barbie, quand même.
Ah, oui,
ça,
oui,
c'est...
Oui.
Il a défendu
un paquet de gens qui vont de Carlos, le terroriste... le capitaine Baril dans les affaires de l'écoute de l'Élysée, le préfet Bernard Bonnet, et puis la famille Boulin, c'était lui, et puis Milosevic, Jacques Médecin, et Klaus Barbie.
Alors, là encore, c'est quelqu'un qu'on classait plutôt à l'extrême gauche, je crois, mais enfin, il va défendre Jacques Médecin, qui lui était un maire proche de l'extrême droite.
Tout à fait, c'était... Il a défendu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, à cette époque, Madame Cazetta, qui était la trésorière occulte du RPR. C'était l'époque Chirac, où avec avant le financement des partis, officiel des partis. Il a défendu des gens complètement, complètement différents.
Enfin, ce qu'il aimait, c'était le soufre, j'ai l'impression, non?
Pardon?
Ce qu'il aimait, c'était l'odeur du soufre, non?
Oui.
Il aimait s'entourer.
Oui. Oui, je crois que oui, vous avez tout à fait. Je pense qu'il aimait qu'on parle de lui. Il a séjourné à Cuba pendant très longtemps. Il était très très ami avec Roland Dumas, mais vraiment une amitié très forte. Et alors pour l'anecdote, donc Vergès c'est pas lui qui a créé, mais qui a mis, je dirais, au goût du jour la défense de rupture, hein. C'est-à-dire en gros quand vous perdez pied, ben vous retournez votre argument, vous retournez la table, c'est-à-dire que vous plaidez l'implaidable. Vous dites, lorsque vous êtes à court d'arguments, vous interrompez l'autre et vous lui dites, vous ne le permettez pas d'arriver à des conclusions, donc vous le déstabilisez. Il y a des exemples célèbres comme ça dans l'histoire, récente ou pas, mais lui a vraiment, outre ce fait de renverser la table, il a promu vraiment des défenses de rupture, c'est-à-dire dire que par exemple, que le tribunal est illégitime. Vous n'êtes pas compétent pour juger car il s'agit de crimes politiques. Enfin, systématiquement, de mettre en cause...
L'institution, presque. C'est presque l'institution judiciaire qui est mise en cause.
Oui, bien sûr. Alors, ça, on le pratique encore d'une certaine façon lorsque l'on critique, notamment par exemple, lorsqu'il y a des procès qui mettent en cause la parole de policiers, ou là, de fait, on est obligé, ou en tout cas, on met en cause la parole de l'institution. Donc on dit non. Ce n'est pas parce que vous êtes juge ou policier ou que sais-je que vous avez raison. Non, je ne vous reconnais pas une légitimité, notamment quand il y a des agressions ou des choses comme ça. Vous n'aviez pas le droit, par exemple, d'utiliser la force à ce moment-là. Mais Vergès a poussé ça à l'extrême en mettant en cause la quasi-l'honorabilité. Enfin, j'exagère un peu, mais Non, c'est vous n'êtes pas celles et ceux qui peuvent juger cette personne-là, car vous n'y comprenez rien, car mon client est un homme politique, et donc vous verrez, l'histoire lui rendra raison, etc., etc.
Alors, on se doute que ça doit agacer le tribunal, mais ça marche auprès des jurés, ça peut séduire.
C'est moyen. Hein.
C'est moyen.
C'est moyen. C'est-à-dire que Vergès, que je n'ai jamais entendu plaider, mais avait sans doute un très grand talent. Il faut beaucoup de talent et il faut surtout savoir ce à quoi on s'engage quand on s'engage dans une défense de rupture. Je l'ai pratiqué très très modestement, oui. Hein, à mon échelle. Il m'est arrivé vraiment de dire que les choses ne devaient pas être ainsi parce que je pense à une époque où, dans certaines juridictions, vraiment systématiquement, les jeunes des quartiers étaient poursuivis pour outrage. Ça existe encore, hein, énormément. Et où je mettais en cause la parole de la police, quoi. Finalement, c'est une défense de rupture. Bon, il faut savoir que on ne dit pas ça pour se faire plaisir, et il faut derrière avoir des arguments solides. Vergès, les arguments qu'il avait, c'était des arguments politiques. Je ne vous reconnais pas la légitimité politique. Vous êtes des bourgeois, mon client est un prolétaire, et donc la révolution triomphera, et ce jour-là, on verra qu'il avait raison. Voilà.
Ah, il était du genre à dire ça.
Ah oui. Ben là, je suis très, 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 très en dessous de la ligne Vergès. Hein. Ah oui, c'était le procureur, vous êtes le suppôt de Satan. Enfin, c'était. Ah oui, donc Vergès a été.
Il a dû quand même perdre plus de procès qu'il en a gagné.
Ah oui, beaucoup
et
plus.
Et c'est quand même. Vous m'avez dit qu'il est mort ruiné, hein, c'est ça?
Ah oui, il est mort ruiné. Alors, il vivait, il a fait à un moment donné du théâtre pour je sais pas quoi. C'est Laurent Dumas qui l'a aidé à être. À survivre. Il est mort en 2013, et en fait, il est mort ruiné. J'ai retrouvé les documents, il avait 600 000 euros de dette, il ne payait ni ses impôts ni ses loyers, c'est Roland Dumas qui lui prêtait de l'argent, et le montant de ses obsèques a été réglé par l'Ordre des avocats de Paris.
Ouais.
Ses enfants ont renoncé à l'héritage, et pour cause, c'est dire que... Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il a visé un enrichissement personnel, si vous voulez.
Ouais.
Ce qu'il visait surtout, c'est qu'on parle de lui toujours, tout le temps. Bon, il n'est pas le seul. Hein.
Ouais.
J'ai pris Vergès.
On aurait pu parler de qui, tiens, aujourd'hui
Je ne sais pas. je parle. J'ai pris Vergès. Il est mort, alors c'est plus facile. Enfin, ouais. À la fois, on ne dit pas de mal des morts, et puis en même temps, on ne compare pas. Mais c'est vrai que les gens qui aiment qu'on parle d'eux tout le temps, à tout moment, pour tout, c'est ce qui prévaut, c'est leur raison d'être.
Est-ce qu'il, finalement, il s'est pas saisi de son métier pour en faire une tribune politique aussi?
Oui, tout à fait,
ouais.
Tout à fait. Il a été longtemps au Parti communiste, puis il a démissionné, il a rendu sa carte parce que le parti était trop tiède. Mais mais il a, en plus avec cette histoire mystérieuse de disparition, où il semblerait qu'il ait été quand même plutôt du côté du Cambodge ou des Khmers rouges, ou
Clément,
comme
oui,
ça.
Ouais. Vraiment le génocide terrifiant.
Ben voilà, donc si vous voulez, c'est un jusqu'au boutiste qui est parti, qui est revenu. C'est un drôle de zozo.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, est-ce qu'il y a des écoles, vous nous avez parlé de théorie finalement, de renverser la table,
oui.
de stratégie de rupture, est-ce qu'il y a d'autres... d'autres stratégies en vogue ou est-ce qu'il y a des écoles comme ça finalement
Alors non, c'est essentiel, c'est l'école la plus importante.
Ah, oui.
En tout cas, c'est le courant le plus important. C'est il y a toujours dans un barreau plusieurs avocats qui sont en opposition contre tout et tout le monde. Généralement, ce sont des gens qui n'ont pas forcément bien dans leur peau ou dans leur tête. Ce sont de bons avocats, mais l'agressivité, on va dire, est leur domaine de prédilection. Et l'agressivité, souvent, c'est la rupture, c'est le clash recherché, etc. Un certain nombre de confrères ou de consoeurs aiment ce genre de choses. Est-ce que ça leur apporte quelque chose? J'en sais rien. Est-ce que ça apporte à leurs clients? Je n'en sais rien. Ça satisfait sur le moment le client qui est content en disant « Ah, qu'est-ce que vous leur avez mis, hein? Ah, dites donc, hein? Ah, vous l'avez réglé leur compte, hein? » Et puis au final, si c'est pour avoir systématiquement des sanctions qui soient plus élevées ou en tout cas pas moindres, on peut se poser des questions. Et puis, il y a de l'autre côté le mollasson ou la mollassonne qui va être toujours le servile, qui va être à disposition du tribunal, comme on dit. C'est-à-dire, on se demande pourquoi il est avocat et pourquoi il ferait mieux tout de suite de baisser le rideau. C'est les deux tendances. On jongle un peu. Parfois, il faut être dans le compromis et la compromission, oui. parce que le dossier l'exige. Oui. Et d'autres fois, il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'art, oui. C'est sûr. À la Vergès, peu quand même, hein, oui. Peu.
Il nous reste 5 minutes, on va parler de Chauveau-Lagarde. Ben oui, ça c'est celui que les Chartrains, que tout Chartrain bien né devrait connaître, Chauveau-Lagarde.
Oui.
Il possède sa rue à Chartres.
Ah ben oui, il est né à Chartres. Hein. Il est né à Chartres et il est mort à Chartres. Il est né en 1656. Et il est au début, il est plein d'espoir pour la Révolution française et... Lorsque les États généraux sont convoqués, il publie une théorie des États généraux comme sous-titre « Où la France régénérée ». Donc, on n'appelle plus sous la Révolution, on n'appelle plus les avocats avocats, on les appelle défenseurs officieux. Il est défenseur officieux, il est donc avocat, y compris d'ailleurs devant le tribunal révolutionnaire. Mais comme il est très efficace... en fait, il fait acquitter ses clients. Et Marat, d'ailleurs, le dénonce pour avoir fait libérer un coupable. Vous voyez déjà que entre le politique et les avocats, la tension est forte. C'est-à-dire qu'on veut bien que tu joues l'avocat, mon petit bonhomme, mais sois pas trop bon au point de faire acquitter celui que moi, politique, je voudrais faire condamner.
Bon, et puis Marat, c'était un spécialiste.
Oui,
c'était un sanguinaire.
Oui, et puis on est dans une période révolutionnaire qui est peu comparable à ce qu'on peut vivre par ailleurs. Mais quand même, pour dire que quand ça gêne, quand ça gratte, l'avocat n'a pas intérêt à être trop bon, quoi. Hein. Je prends des exemples français, mais à l'étranger, c'est bien pire. Alors, il prend la défense de Marie-Antoinette.
Eh oui. Quel risque il a dû prendre, je veux dire, à cette époque révolutionnaire.
Terrible, terrible. Il attire les soupçons donc du comité de sûreté. Et il est convoqué devant le comité pour accuser de l'avoir trop bien défendu. C'est quand même... On a accusé un avocat d'avoir trop bien défendu, alors que finalement, c'est pas lui qui juge. L'avocat ne juge rien, ni personne. Il prend la défense de Madame Élisabeth, sœur du roi, alors qu'il n'a pas le droit de voir sa cliente. Enfin bon, dans des périodes révolutionnaires extrêmement troublées. Et on lui confie la défense de Charlotte Corday.
Eh oui.
Qui a assassiné Marat. Voilà. Alors, il n'y avait aucun doute. Hein, on savait très bien la suite. Mais il a plaidé en rappelant l'exaltation du fanatisme politique. Celui qui a mis le couteau dans la main de cette femme. D'ailleurs, ça a donné lieu à des écrits et des odes. Victor Hugo a fait une ode indirecte à Chauveau-Lagarde. Voilà. Alors, après la loi, donc en 1794, tout ça se durcit, on enlève le droit au recours à l'avocat, et donc là, il se retire à Chartres. Et puis, il est arrêté parce qu'il fait preuve de trop d'indulgence envers les contre-révolutionnaires. Mais comme il est malin, il devait comparaître dans les 3 jours devant le tribunal, on a les mêmes aujourd'hui, ça s'appelle les comparutions immédiates, hein, des choses comme ça. Bon, c'est pas la même procédure, bien sûr, mais en fait, comme c'est la panique un peu partout, sa détention dure 6 semaines, il est très très discret, et donc, hop, il évite la guillotine.
Il est détenu à Chartres, on sait pas, ça.
Je sais pas, ouais. Je ne sais pas. Il est détenu, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Je pense que c'est à Chartres, puisque c'est là qu'il s'est retiré. Donc on peut imaginer qu'il est arrêté là.
C'était à peu près à l'époque de la bande d'Orgères, hein, du Beau-François, etc.
Oui, c'est ça.
Peut-être trouvé...
Peut-être qu'ils ont partagé... Ils sont grattés sur le côté. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Chauveau-Lagarde. Voilà. Et donc, il est... alors après, par la suite, il est condamné à mort par contumace. Il se cache. La sentence est annulée. Puis après, sous le directoire, il reprend sa profession... et il défend des royalistes accusés de conspiration. Bon.
C'est une époque rude. C'est de là qu'on vient, hein, faut jamais l'oublier. Hein,
Ah oui, non, on est à une époque où, en 10 ans, on passait de la vedette internationale à celui à qui il fallait couper la tête. Hein. C'était non, non. Et encore une fois, les avocats, pas pour eux, c'est pas les seuls, hein, bien évidemment, hein, mais les avocats font partie de ces gens qui, étant au front, finalement, se montrant, puisque leur ego fait qu'ils se montrent toujours, et ben finalement, ils en prennent aussi, quoi.
Oui, c'est une époque où il fallait plutôt se planquer, faire profil bas. Hein. Donc, ce que vous nous avez dit, c'est qu'en 1794, l'avocat n'existait plus, alors c'est ça.
Non, on avait supprimé le recours à l'avocat.
Ah, oui.
On avait estimé que pouvait se défendre soi-même, etc. C'est cette période où toutes les professions qui avait existé durant l'Ancien Régime était suspect, donc on enlève ça. Et puis ça a été rapidement remis. Napoléon a remis les choses à l'ancienne. Voilà. Il était enterré à Montparnasse, hein, au cimetière du Montparnasse. Voilà, il avait la parole vive, nous dit-on, une grande modestie. Et, voilà, à Chartres.
Encore une figure un peu oubliée. Mais...
Voilà, à Chartres, la rue Chauveau-Lagarde.
Ouais.
Nous permet de nous souvenir de ce personnage.
Merci beaucoup, Philippe. On arrive au terme de cette émission que vous pourrez réécouter, chers auditeurs et auditrices, sur notre site www.radiorentiel.fr. C'est la dernière émission de la saison. Et évidemment, vous nous le promettez, on se retrouve à la rentrée pour, attention, tenez-vous bien, une série d'émissions qui suivra de très près l'actualité judiciaire française ou internationale, je ne sais pas.
Ouais.
En tout cas, l'actualité judiciaire.
Donc, on en avait parlé, on va le faire.
Ouais, là, ça va sentir le soufre, là encore, je le sens. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Elle s'appelait Claude. C'était un oiseau qui était venu d'Autriche. Dans une vieille hotte skiche, elle vendait des bagues dans le métro. Oh oh. Elle vendait des bagues dans le métro. Oh oh. Elle avait chanté dans les USA, à New York et Tianjin, Mozart et Gershwin. Elle parlait souvent de Chicago. Oh oh. Elle parlait souvent de Chicago. Oh oh. Quelque temps après, on se prit un forfait. 8 jours au pays, de l'Irish coffee. À Dublin, elle jouait du banjo. Oh oh. À Dublin, elle jouait du banjo. Oh oh. Elle devint star, reine de l'Alcazar. C'est pris pour Marilyn, pris des pseudonymes. Elle portait des chaussures en croco. Oh oh. Elle portait des chaussures en croco. Oh oh. Elle s'appelait Claude, c'était un oiseau qui était venu d'Autriche. Dans une vieillotte skiche, elle vendait des bagues dans le métro. Oh oh. Elle vendait des bagues dans le métro.